découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Donc la dernière fois, nous avons commencé à... Enfin, les deux dernières catéchèses, nous avons commencé à parler de l'Église et de la démocratie, qui est une des formes de gouvernement. On se rappelle qu'il y a la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, qui sont les trois formes principales de gouvernement que l'on trouve dans l'histoire de l'organisation politique des sociétés. La démocratie, qui au sens strict du terme signifierait le gouvernement du peuple par le peuple, du mot « démos », qui veut dire « peuple », et en même temps, on se rend bien compte qu'essentiellement, cela désigne un mode de désignation du gouvernement, c'est-à-dire par le suffrage universel ou par l'élection de grands électeurs représentatifs de la société, du peuple. Nous avons tenu en tout cas à préciser dans notre dernière catéchèse, comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1901, je cite, que pour l'Église catholique, la diversité des régimes politiques est moralement admissible, pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Fin de citation. Donc on voit bien que l'Église ne prend pas parti pour une forme de gouvernement plus que pour une autre. C'est très important de le signaler. Ça dépend évidemment du discernement et de la liberté de choix des citoyens. Pourvu que le mode de gouvernement puisse être au service du bien commun et le souci d'établir un ordre social juste, comme le rappelle évidemment le catéchisme de l'Église catholique. À cet égard, l'Église qui, certes, tient toujours à rappeler l'origine divine du pouvoir ou de toute autorité, conformément aux Saintes Écritures, comme nous l'avons dit la dernière fois, en se référant par exemple à saint Paul aux Romains, au chapitre 13, où il dit que « tout pouvoir vient de Dieu ». Et d'une certaine manière, c'est ce que Jésus confirme, comme nous l'avons déjà souligné, dans son dialogue avec Pilate, au jour de son jugement et de sa condamnation à mort, où il dit « tu n'aurais aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut ». Et conformément donc au magistère constant de l'Église, nous avons donc précisé l'origine divine du pouvoir ou de toute autorité humaine. Cependant, l'Église ne s'oppose en rien à la démocratie en tant que mode de désignation des gouvernants par un collège d'électeurs ou par la voie du suffrage universel. On pense par exemple à ces grandes démocraties modernes, je pense aux États-Unis. Nous sommes dans cette période où l'élection du président des États-Unis doit être confirmé. Sans doute, les grands électeurs ont été élus au suffrage universel dans les États, et ils constituent le collège qui va élire, finalement, le président de la République, le président des États-Unis. Faisons donc d'abord un peu d'histoire. Il est vrai que, échaudé par la Révolution française, d'où est né ce que l'on appelle la République, et échaudé par les persécutions qui s'en suivirent, l'Église s'est longtemps montrée réservée à l'égard de la démocratie comme de la République et même du suffrage universel. On cite en particulier le bienheureux Pie IX dans une allocution fréquemment citée du 5 mai 1874 dans laquelle il déclarait, écoutons bien, « Remettre la décision des questions les plus graves aux foules nécessairement inintelligentes et passionnées, n'est-ce pas se livrer au hasard et courir volontairement à l'abîme ? Oui, le suffrage universel mériterait plutôt le nom de folie universelle, et quand les sociétés secrètes s'en emparent, comme il arrive trop souvent, celui du mensonge universel. » Fin de citation. On voit comment le pape Pie IX, le bienheureux Pie IX, donc à la fin du XIXe siècle, n'y allait pas par quatre chemins. Voyez, c'est vrai qu'on peut douter parfois de l'efficacité réelle du suffrage universel quand on peut se dire que beaucoup de citoyens ne s'intéressent pas vraiment à la chose publique, sont un peu ignorants des enjeux et peuvent être éventuellement influencés, voire manipulés par des médias qui sont aux mains de sociétés secrètes, évidemment, sous la plume du bienheureux Pie IX. Il s'agit essentiellement de la franc-maçonnerie. Mais ce que le bienheureux Pie IX redoutait, sans doute à juste titre, dans le contexte de l'époque, marqué par la montée de l'anticléricalisme et du laïcisme, c'est que la masse de nos concitoyens, le plus souvent ignorante en effet de la chose publique et des affaires de l'État, puisse être victime de certains démagogues et manipulée par une prétendue élite éclairée, souvent issue des rangs de la franc-maçonnerie. Élite éclairée, on pense au siècle des Lumières, bien sûr, qui est née dans les sociétés de pensée, qui prétendait parler au nom du peuple en vue d'imposer ses propres idéaux. C'est vrai que l'histoire nous montre, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler plus avant, mais nous montre qu'un certain nombre d'idéologies qui sont nées dans des sociétés secrètes sont arrivées dans nos législations modernes par la voie démocratique, hein, de parlement élu au suffrage universel.